88.3 FM, toujours sur la place de la République, et eh bien pour Qu'est-ce qu'elles veulent encore, oui, cette journée qui vous est proposée ici, journée où eh bien, on peut rencontrer plein d'associations qui œuvrent pour le droit des femmes aujourd'hui.
Et oui, qu'est-ce qu'elles veulent encore ? Eh bien, pourquoi pas les mêmes médiatisations, salaires, intérêts du public, accès aux postes à responsabilité que les hommes dans le milieu sportif. Car la démocratisation du sport féminin relève d'un long et fastidieux combat, à l'image des batailles menées par des femmes comme Amelia Jane Bloomer, militante américaine du droit des femmes en 1851, qui livre un combat pour l'abandon de la jupe longue obligatoire pour les pratiques sportives et l'instauration de la jupe courte qui permet une aisance de mouvement. En 1900, Charlotte Cooper et Margaret Abbo, les premières championnes olympiques, font face aux propos de Maurice Boisget, théoricien de l'activité physique, qui dira que la femme n'est pas faite pour lutter, mais pour procréer. Alice Milliat, sportive française et ambassadrice du sport féminin, fonde en 1917 la Fédération sportive féminine internationale pour défendre le droit des sportives à participer aux JO. Le Comité international olympique est à l'époque présidé par son fondateur Pierre de Coubertin, qui déclare en 1912 que les Jeux olympiques devraient être réservés aux hommes. Les hommes, leur rôle aux femmes devrait être de couronner les vainqueurs. En 1973, la numéro 1 du tennis mondial, Billie Jean King, aussi connue pour son engagement dans la défense des droits des femmes et des LGBT, menace de ne pas participer à l'US Open si les femmes n'obtiennent pas exactement les mêmes droits que leurs homologues masculins. L'égalité est alors appliquée pour ce tournoi. Nous remercions ces femmes qui ont contribué à la construction de notre société où ces propos choquants seraient aujourd'hui condamnés. Mais il reste beaucoup à faire. Aujourd'hui, la féminisation différentielle des pratiques sportives perdure alors que tous les sports sont ouverts aux femmes. Les fédérations sportives mettent en œuvre des plans pour encourager la féminisation. Des actions soutenues par le ministère des Sports vont de la promotion de l'égalité des sexes à la conquête d'un public féminin. Ces dispositifs participent à l'augmentation des licences, plus 20% entre 2007 et 2015. Concernant la diffusion de la pratique féminine sportive dans les médias, le CSA et le ministère des Sports lancent des opérations visant à augmenter la visibilité du sport féminin dans les médias. Là aussi, les résultats sont probants. Le volume horaire de diffusion de retransmissions sportives consacrées au sport féminin à la télévision était de l'ordre de 7% en 2012 et de 14% en 2014. Le déséquilibre de la présence des femmes dans la programmation sportive reste encore trop importante. Les femmes prennent la parole dans les programmes de sport sont seulement représentées à hauteur de 17% contre 83% pour les hommes. Au phénomène de féminisation spontanée, c'est-à-dire une féminisation liée à l'évolution de la société, s'ajoute un phénomène de féminisation encouragée, c'est-à-dire une féminisation liée à des dispositifs visant à attirer les femmes. Or, ces dispositifs sont parfois vecteurs de la reproduction des stéréotypes de genre. Pour attirer des femmes, les opérateurs sportifs reproduisent les normes de la féminité, à l'image de la Fédération française d'escrime, qui développe la pratique du fitness escrime, qui s'apparente à une séance de fitness avec des mouvements d'escrime. Dans le livret de documentation pédagogique à l'usage des maîtres d'armes, Frédéric Pretouchka, président de la Fédération française d'escrime, met en évidence les motivations intrinsèques des femmes basées davantage sur leur image corporelle que sur l'esprit de compétition. Je cite « L'esthétisme est l'une des valeurs reconnues de l'escrime. Pourtant, le public féminin ne représente que 27% des effectifs de la fédération. À cela, une raison essentielle, la compétition n'est pas la motivation première de la femme dans la pratique sportive. C'est en effet l'entretien de son corps que la femme va privilégier. » Un discours qui n'est pas sans rappeler le document « J'aime, j'aime pas » de la Fédération française de tennis qui fut dénoncé pour sexisme en 2010. Parmi les lois Ferry et formulée dans la loi de 1882, l'école primaire peut et doit faire aux exercices du corps une part suffisante pour préparer et prédisposer les garçons aux futurs travaux de l'ouvrier et du soldat, les jeunes filles aux soins du ménage et aux ouvrages des femmes. Somme toute, une avancée pour l'époque qui garantit aux femmes l'accès à l'activité physique malgré une misogynie institutionnelle évidente à l'époque. Ce texte de loi expose clairement la volonté de l'État de former de futurs citoyens serviables et disposés à offrir leur force de travail et leur vie pour servir les causes nationales. Nous sommes en droit aujourd'hui de nous demander quels sont les intérêts des acteurs de l'économie des sports à développer la féminisation du sport. La France s'est engagée dans l'organisation de deux compétitions majeures, le Mondial de football féminin en 2019 et les Jeux olympiques de 2024. L'augmentation des licences féminines et l'intérêt renouvelé des médias pour le sport féminin ouvrent un nouveau marché juteux synonyme de croissance. Face à ces enjeux économiques importants, espérons que les opérateurs sportifs encouragent la féminisation des sports par des actions visant à réduire les inégalités d'accès plus que par des actions de séduction renforçant les stéréotypes de sexe. Go !
Un mot de sport avec du football.
Well, I love Radio Campus Orléans and I wish all of you a very good
day. Pas chier, attends, toi aussi. Non,
t'as
emmerdé.
T'as raison.
La plus belle de toutes les Coupes du Monde.
Salut, c'est Lance Armstrong.
Voilà, je suis René Joard et j'écoute Radio Campus et je suis ici Radio Campus.
Bah, non, mais de quoi
ça veut dire quoi?
Mais toi, tu te mêles de quoi?
Bah, je me mêle de ceux qui me regardent.
Non, tu te mêles de tes oignons, ça n'a strictement rien à voir avec toi. Tu t'occupes de tes fesses, t'es gentil.
De quoi?
Toutes mes amitiés à Radio Campus Orléans.
Le ballon le plus lourd est le ballon de basketball.
Tu es champion du monde.
88.3.
Eh bien voilà, nous sommes toujours place de la République pour ce plateau radio autour de la place des femmes dans le milieu sportif et dans les médias. Avec moi pour animer cette émission, eh bien nous avons Thomas Deray, bonjour.
Salut.
Alors Thomas, on a déjà entendu ta voix sur les ondes de Radio Campus Orléans.
Oui, un petit peu.
Et on a la chance de lire tes articles sur La République du Centre.
Entre autres, c'est ça, ouais. Non, mais ouais. Et j'ai commencé effectivement avec vous, Radio Campus, ça fait toujours plaisir de revenir au Bercail.
Tu as un certain intérêt pour le sport?
Oui, quand même, oui. Bah, j'ai démarré avec vous avec des chroniques sport, hein, quand même, hein. Donc forcément. Hein.
On a aussi Julie Rumeau qui est avec nous. Julie, tu es étudiante à l'Université d'Orléans.
Oui.
Et tu fais une émission qui s'appelle...
Le sac à main de l'histoire.
Est-ce que tu peux présenter rapidement cette émission?
Alors en fait, c'est... Je suis en études d'histoire et je me suis dit pourquoi pas faire une chronique dessus. Et je me suis dit, c'est marrant, dans les livres d'histoire, la majorité des personnes dont on parle, ce sont des hommes. Et pourtant, les femmes ont fait énormément avancer la société. Et du coup, sur des petits formats de 5 minutes, une fois par semaine, je fais une chronique qui parle des femmes qui ont fait bouger la société. Voilà.
Très bien. Et aujourd'hui, tu nous présenteras un format spécial en direct.
Un peu plus court, mais oui.
Autour du personnage d'Alice Millia, c'est ça?
C'est bien ça.
Très bien. Eh bien, on accueille nos premiers invités. Bonjour à vous. Donc, vous êtes deux joueuses de l'USO de football.
Oui.
Alors, je vous laisse vous présenter. Et puis après, je laisserai la parole à Thomas, qui aura quelques questions à vous poser.
Bonilou Piat, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Enchantée, en tout cas, de vous rencontrer, effectivement.
Bonjour.
Vous avez 20 ans. Vous êtes joueuse de l'USO football, classée en D2 de championnat de France féminin. J'avais une petite question à vous poser, même à toutes les deux en fait, tout simplement. La première question, c'est vous êtes d'Orléans, vous venez du CRU, finalement, vous avez peut-être un regard finalement sur l'évolution de la pratique du football féminin dans le coin, dans la région. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette évolution depuis une dizaine, une quinzaine d'années finalement? Vous avez vu finalement la situation du football féminin progresser? Est-ce qu'elle est bien finalement au sein d'Orléans, au niveau de la région?
Au niveau de la région, je pense que d'année en année, les clubs accueillent plus de licenciés féminines. Il y a plusieurs catégories d'équipes qui se créent, au niveau des petites, puis même aussi des championnats au niveau des U19 et des seniors. Donc je pense que oui, ça a évolué.
Ok. Vous partagez cette idée, Nina?
Oui.
Oui, vous aussi, ouais. Alors, au niveau de votre expérience principale, on dit souvent que le football est un sport, on disait souvent un sport d'homme, entre guillemets, qu'il y avait un petit peu de machisme là-dedans. Comment, finalement, est-ce que vous est venue cette idée de vous mettre dans le football et de manière assez sérieuse, en l'occurrence, puisque vous êtes quand même en deuxième division de football féminin là. Comment est arrivée cette idée, ce cheminement, finalement?
Ben, au début, je faisais beaucoup de sport à l'école et je pratiquais des activités en dehors de l'école. Puis en primaire, j'ai demandé à ma maman si je pouvais faire du foot et qu'elle m'inscrive au foot.
Ça a été quoi sa réaction?
Au début, elle m'a dit l'année prochaine. Et au final, ça s'est pas fait. Du coup, je faisais du cirque à côté, et avant le cirque, de la musique. Du coup, j'ai continué. Puis l'année d'après, j'ai reposé la question avec plus d'envie.
Donc vous aviez quel âge à ce moment-là? 11, 12 ans?
La première fois que j'ai demandé, j'avais 8 ans. Ah, et oui, 8 la ans. Deuxième, 9 ans et demi, 10 ans.
D'accord.
Et du coup, j'étais en CM2 et on a trouvé un club féminin, avec une équipe féminine, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup.
Oui, il a fallu chercher.
Ouais. Oui, c'était la SMOC à Saint-Jean-de-Bray. Du coup, j'ai commencé le foot là-bas.
D'accord. Nina, vous, votre expérience personnelle, comment est-ce que vous êtes arrivée?
Moi, j'ai commencé le foot à 6 ans. J'ai commencé avec les gars.
Après... Donc vous étiez la seule fille de votre équipe de garçons?
Ouais, ouais, j'étais la seule fille. J'ai commencé à Marcy-en-Villette, à côté. Après, j'ai vu que ça prenait des ampleurs. J'ai été prise au Pôle Espoir, tout ça. J'ai fait des sélections avec l'équipe de France. Et après, voilà.
Moi, j'aimerais revenir effectivement sur ce moment-là où vous n'aviez pas d'équipe féminine, finalement, parce que là, c'est assez intéressant de rebondir là-dessus. Comment vous le viviez, vous, personnellement, le fait de vous retrouver dans une équipe seule fille, finalement, au milieu de tout cet environnement masculin, quoi?
J'avais pas trop le choix, déjà. Après, ça me dérangeait pas. Même quand on m'a dit d'aller dans une équipe féminine, j'ai fait la tête un peu, parce que je préférais jouer avec les gars. On s'améliore plus avec une équipe de gars.
Ah oui, vous trouvez?
Ouais, c'est plus physique.
D'accord. Le niveau, en l'occurrence, là, puisque là, vous jouez toutes les deux en deuxième division, finalement, le niveau est assez relevé, puisque là, c'est la première fois que l'USO est en deuxième division depuis un sacré bout de temps. Vous êtes en milieu de classement, là, actuellement. Enfin, ça se déroule plutôt pas mal, votre saison. Le niveau en lui-même, effectivement, comment vous le ressentez, là, pour cette saison?
Il est plus élevé que l'année dernière, ouais. Bien sûr. Parce que l'année dernière, on jouait en DH. Après,
ça va plus vite. Et c'est plus, on passe plus de temps au foot que l'année dernière.
Alors vous dites...
plus sérieux.
Ouais, alors c'est plus sérieux. Combien d'heures vous pratiquez en moyenne en temps d'entraînement et puis en temps de match, finalement, dans la semaine? Combien de temps est-ce que ça vous prend, vous, dans votre pratique?
Toute la...
10... Ouais. Oh, j'ai compté que les entraînements, c'est 10 heures.
10 heures,
ouais. D'accord.
Plus le week-end.
Ouais. C'est très prenant quand on a une vie professionnelle, finalement, à côté aussi, puisque là, vous êtes dans une pratique, finalement, qui n'est pas ou qui n'est quasiment pas rémunérée, finalement.
Ça
prend beaucoup de temps.
Ouais, ça prend beaucoup de temps. Il faut allier les études avec le foot et...
Ouais.
Ça prend quand même du temps. Le soir, on rentre tard chez nous.
D'accord.
Mais ça, c'est faisable largement.
Ouais. Vous pensez que cette situation, elle s'améliore quand on voit notamment l'Olympique Lyonnais, la professionnalisation avec l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain, Montpellier, Saint-Etienne? Vous voyez là une réelle évolution également au niveau de la professionnalisation du sport et du football féminin en particulier en France depuis quelques années maintenant?
Oui.
Ouais. Ouais.
Ça va. Plus les années passent et plus il y en a.
Ouais. Ce qui vous a inspiré aussi à venir finalement dans le football féminin également, il y a des personnalités en particulier du sport ou du football qui vous ont particulièrement inspiré ou pas vraiment?
Moi personnellement non, parce que je connaissais pas du tout.
Ouais.
Je jouais plus dehors avec mes copains et après je suis arrivée là et...
Ouais.
Et là oui, après j'ai commencé un peu à m'intéresser, mais beaucoup, enfin bien après.
Ouais.
Ouais, pareil.
D'accord. Et aujourd'hui, maintenant, le regard de votre entourage, comment est-ce qu'il perçoit votre pratique du football féminin, finalement? C'est plutôt, on le voit plutôt de manière positive, ou vous avez encore des remarques un petit peu, parfois, pas forcément machistes, mais des remarques peut-être différentes, enfin des remarques qui ne sont pas encore totalement d'accord avec votre pratique actuelle?
C'est quand même... Les hommes, en général, ils voient... Ils pensent que le football féminin, enfin, il est un peu négligé, le football féminin, je trouve, quand même, même encore aujourd'hui.
Même sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de commentaires.
Sur Twitter,
ça, négatif.
C'est... Ouais.
Et selon vous, c'est dû à quoi?
Je pense que c'est physiquement. Le football masculin, ça va beaucoup plus vite, ça n'a rien à voir en fait. Ouais.
Alors, on dit physiquement, mais on n'est pas. On n'est pas dans un sport, l'haltérophilie ou quoi que ce soit, là. C'est-à-dire que c'est un sport technique, quand même. Est-ce que vous pensez que les filles n'ont pas leur mot à dire sur ce sport-là aussi, finalement,
pas
à terme?
Pas du tout, mais... Ouais. Par exemple, au niveau d'un certain âge, 15, même 14-15 ans, la différence physique, ça se voit extrêmement au niveau des filles et des garçons qui ont le même âge.
Ouais.
C'est flagrant.
Ouais.
Et actuellement, là, on est en... Enfin, on constate une vraie progression en termes de licenciés finalement féminines au sein du sport féminin, du football féminin. On en a compté 165 000 en 2018. Alors, une énorme progression effectivement d'année en année, mais ça reste encore très minoritaire puisqu'il y a quand même 2,2 millions de licenciés au total en France, donc ça reste quand même un chiffre extrêmement réduit. Malgré tout, vous pensez que là, actuellement, on est dans la bonne voie en termes de médiatisation, notamment. Qu'est-ce qui pourrait amener à ce qu'il y ait de plus en plus de filles, finalement, qui passent peut-être ce blocage de se dire « le football, c'est pas fait pour les filles, c'est pas fait pour moi », qu'est-ce qu'il faudrait faire, finalement, pour améliorer tout cela ?
Déjà, je pense que la Coupe du Monde, ça va amener beaucoup de filles qui font pas de foot à faire du foot, je pense,
si elles
en ont envie. Je pense qu'elle va être beaucoup médiatisée, la Coupe du Monde.
Elle a déjà été
à la télé,
déjà, ça commence.
Sur les réseaux sociaux également, voilà. Donc il y aura beaucoup plus de visibilité.
Ouais. L'Olympique Lyonnais, c'est un exemple, en fin de compte, à suivre
C'est quand même, c'est l'excellence.
Ouais. D'accord, ok. Et alors, je voulais savoir également, à titre personnel, vous vous êtes engagé dans le foot parce que vous appréciez ce sport, j'imagine. Vous le suivez à la télé, vous le suivez... comment est-ce que vous suivez le foot au quotidien, vous, personnellement ?
Moi,
filles, garçons confondus, hein, qu'est-ce que vous regardez, vous, particulièrement, en tant que fan de foot ?
Moi, je regarde pas trop les matchs... je suis pas trop le championnat Ligue 1, Ligue 2, puis même des autres pays, donc...
Ouais.
Moi, je commence un peu à regarder. S'il y a des matchs de D1 féminine, je regarde.
Moi aussi, je commence tout juste. Je ne vais pas regarder, attendre
parce
le match.
Parce qu'avant, je n'étais pas médiatisée en même temps.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Là, moi, je regarde un peu. Ouais. Tous les matchs féminines, j'essaie de regarder.
Ouais. Globalement, vous trouvez que les pratiquantes de football, les filles, elles suivent quand même leur propre performance. Elles regardent quand même ce que les autres, elles font.
Oui, bien sûr. Au niveau des résultats, des championnats.
Ouais.
Surtout en DH, moins, je trouve.
Ouais.
Regardez moins ce qui se passait plus haut.
D'accord. Et finalement, donc, vous, à terme, on va prendre une supposition. Là, j'aime bien un peu poser cette question aussi. Imaginons qu'il y ait autant de filles licenciées de football que de garçons. Imaginons qu'il y ait 2 millions de garçons et 2 millions de filles qui soient licenciées en France. Ça serait juste exceptionnel, vraiment incroyable. On met l'équipe des meilleurs garçons contre l'équipe des meilleures filles. Quel est votre pronostic ?
Les garçons écrasent les filles.
Vous pensez, ouais ?
Oui, c'est...
Ça dépend.
Pourquoi ?
Non, mais parce que...
Ça dépend sur quelle surface.
Si on prend le même nombre... Si on prend le même nombre de licenciés...
Moi, je dis un 5 contre 5 en 5, on peut gagner.
En 5, mais un vrai terrain, avec un stade rempli.
Ouais.
Les garçons...
C'est
dommage à dire, mais les garçons gagnent.
Ah oui. Vous ne pensez pas que les filles, finalement, pourraient exploiter d'autres types de qualités, peut-être, pour... finalement tirer leur épingle du jeu, non ? Non, c'est pas possible.
Je pense qu'elles seraient pas ridicules non plus, parce que techniquement, si on prend les meilleures filles du monde, c'est agréable à regarder. Hein. Mais quand même, si on prend à côté les meilleurs garçons du monde, c'est sûr que malheureusement...
Ouais. Et au niveau de votre... Là, je reviens un peu sur votre pratique personnelle, puisque vous êtes donc, je rappelle, à l'US Orléans Football, club donc classé en D2 féminine. Actuellement 5e du championnat, vous sentez qu'au niveau du club, il y a une véritable ambition pour se structurer, voire même, pourquoi pas, aller viser, aller s'installer, pourquoi pas, en première division ?
Oui.
Pourquoi pas ?
Ouais. Oui. Ouais. On est sur une espèce de transition, et oui, on le ressent vraiment.
Ils mettent les moyens pour nous, même l'année prochaine, ils vont investir.
Et ils nous font bien comprendre.
Ouais.
Ah oui. Des fêtes interdites, quoi.
Non, pas que ça, mais notamment sur l'hygiène de vie et tout ce qui va avec.
Ouais. Vous aimeriez en faire un métier à terme, si c'était possible ?
Si c'était possible, oui.
Ouais. Actuellement, on vous a pas posé la question, mais vous travaillez dans quel secteur, ou vous étudiez dans quel secteur ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie à côté du football ?
On est actuellement L1 STAPS.
D'accord. Toutes les deux.
Oui, toutes les deux.
Ouais. Donc c'est malgré tout, on cherche un petit peu à côté quand même, parce que on n'est pas encore dans le côté très professionnel. Les ambitions pour l'avenir, peut-être, d'ici, je sais pas, 3 ans, 4 ans, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous imaginiez d'ici 3 ou 4 ans, peut-être, pour votre future carrière de footballeuse, pourquoi pas ?
Moi, j'aimerais bien continuer d'évoluer au niveau des deux, avoir beaucoup de temps de jeu, et voilà.
Moi,
pourquoi pas.
Nina,
moi, jouer en D1.
Jouer en D1, ouais.
Ouais.
Ça serait le rêve. Jouer contre le PSG, l'Olympique Lyonnais, peut-être. Ça
serait quand même des choses. Ouais, jouer contre l'Olympique de Lyon.
Ouais. D'accord, très bien. Bon, merci à vous, en tout cas, d'avoir répondu à ces quelques petites questions. Merci.
Merci à vous de nous avoir apporté votre regard de jeune joueuse. On va parler toujours football, mais un peu autrement, avec un entretien de Rebecca Chaillon, qui est
metteur en scène, et qui sera à la scène nationale, au Théâtre d'Orléans, en juin prochain, autour d'une programmation spéciale autour de la Coupe du Monde féminine. Eh bien, on parlera avec Claire Vallée, qui travaille à la scène nationale, qui va nous rejoindre sur le plateau, eh bien, de comment on parle de football au théâtre.
Donc le projet est né par accident parce que à la base on parle d'un festival autour du foot et que je m'aperçois qu'il n'y a que une programmation autour du foot masculin, ou en tout cas qui questionne absolument pas le foot pratiqué par d'autres, ni par les handicapés, ni par les femmes, ni voilà. Et je m'aperçois que c'est un endroit qui cumule, mais où viennent comme le foot c'est un microcosme, quoi, ça vient questionner exactement les mêmes problèmes, en plus petit, en plus serré, en plus intense, tous les mêmes problèmes qu'on retrouve dans la société, de sexisme, de racisme, d'andiphobie, d'agisme, de classisme, etc., de toutes les discriminations, viennent bien se concentrer là, avec un sport qui est connu pour être le sport masculin par essence. Et là, du coup, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça vient? Pourquoi c'est problématique quand ça devient des femmes? Pourquoi elles sont moins médiatisées? Pourquoi elles sont 400 fois moins payées? Pourquoi on leur demande de garder les cheveux longs, d'être maquillées, de parler de leurs copains, d'être surtout pas lesbiennes? Pourquoi toutes ces choses-là? Pourquoi on adore les sportives noires, arabes, quand elles sont sportives, mais en dehors de ça, vous, non? Voilà. Et puis ça m'a permis d'inviter d'autres personnes, puisque c'était un solo avant, un duo, et là d'un seul coup on est 12 sur le plateau. Donc il y a autre chose, comment je fais pour transmettre moi mes qualités entre guillemets de performeuse, mon envie de prendre des risques sur le plateau, mon écriture et tout ça, à des personnes qui sont et des performeuses et des comédiennes qui veulent se mouiller et aller dans la perf, et des filles qui pratiquent le foot, qui sont pas vraiment footballeuses non plus, qui ont des tafs à côté, enfin qui ont d'autres emplois à côté. Voilà. Après, moi j'ai rencontré un gros problème, c'est que je me suis retrouvée avec pour un spectacle qui va questionner le racisme, avec pas tant de personnes racisées sur le plateau. Donc je pense que je prends beaucoup ce créneau-là, moi, avec quand même cette équipe qui est assez blanche. C'est pas grave, hein, mais ça aurait été bien de le questionner là aussi. On devrait créer en novembre 18 au CDN de Rouen. On espère que tout se passe bien.
Alors, on vient d'entendre un entretien avec Rebecca Chaillot, enfin l'extrait d'un entretien qui a été enregistré en mars 2017. Ça a été réalisé par le Pôle européen de la création, et elle parle donc de cette création où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Un titre un peu énigmatique, en sachant qu'on parle de football. Bonjour Claire Vallée.
Bonjour.
Alors, vous travaillez à la scène nationale.
Oui.
On peut se tutoyer parce qu'on se connaît.
On s'est déjà
croisé plusieurs fois. alors, est-ce que tu peux déjà nous expliquer peut-être ce titre où la chèvre
le
est attachée et il faut qu'elle broute.
Donc du spectacle de la metteuse en scène.
Metteuse en scène. Oui,
Rebecca Chaillon. Metteuse en scène, coach, performeuse, et qui nous explique que ce terme, c'est une assez vieille expression qui doit dater du XVIe siècle, qui explique qu'on se conforme lorsqu'on se conforme, qu'on rentre dans le cadre, on reste autour de la chèvre pour brouter sur l'herbe ou près du piquet où elle est attachée. Ça, c'est l'expression d'origine. Elle l'a choisie parce que c'est en plus, elle renvoie à pas mal d'images, notamment. Ce qui est peut-être pas précisé, ni même dans l'entretien que vous avez, mais je pense qu'elle a dû le dire. Elle est militante LGBT, elle revendique et elle exprime très clairement son statut de performeuse lesbienne. Et donc, il y a une métaphore lesbienne dans ce titre, n'est-ce pas? J'aime bien la tête. C'est pas radiophonique, mais je t'attends. Qu'est-ce qu'elle va dire? Voilà, je vais pas dire de bêtises, mais que voilà. Donc il y a beaucoup de, d'allusions autour de ce terme.
Beaucoup d'images.
Beaucoup d'images qui nous viennent. Et voilà. Donc il y a aussi un terme footballistique, je crois, qui dit que la chèvre, c'est celui qui foule l'herbe sans apporter quoi que ce soit à son équipe. Je ne sais pas si Bonilou, les filles, peuvent si elles connaissent le terme de chèvre en foot. Le fait que ce soit un footballeur qui va faire trois fois le tour du terrain, mais qui ne va pas marquer un but, ni même une action ou quoi que ce soit. Non, ça ne vous dit pas. Donc,
c'est peut-être une vieille expression.
C'est peut-être aussi une vieille expression.
L'expression de chèvre, après, dans le football, on l'utilise plutôt parfois pour décrire un gardien de but, par exemple, qui va laisser passer
voilà,
le ballon.
C'est l'esprit. Ouais. Voilà.
Synonyme
ou
de passoire.
Ou un joueur qui va mal jouer, ouais, ou qui va mal jouer tout simplement. Des fois, c'est l'expression qu'on dit, ouais, c'est une chèvre.
Ah oui,
c'est... Voilà,
donc il y a plein d'images autour du titre qu'on peut s'approprier de plein de façons différentes. Voilà.
Alors, sur scène, on a à la fois des performeuses, des artistes performeuses, mais aussi des joueuses de football.
En fait, elles sont, effectivement, c'est un mélange. Rebecca Chaillon, l'origine de son spectacle, était effectivement elle-même en tant que sportive. Elle a voulu pratiquer le foot. Elle a eu du mal à trouver une équipe dans la région parisienne qui voulait bien, voilà, où elle pouvait exprimer son envie de faire ce sport. Et elle a rencontré les Dégommeuses, qui est une équipe qui évolue en région parisienne, une équipe de football féminin et qui se lutte contre les transphobies, LGBT-phobies, voilà. Donc c'est militant. Ils revendiquent leur appartenance au mouvement LGBT. Elles sont lesbiennes, elles se revendiquent lesbiennes et elles jouent au foot. Voilà. Alors,
j'ai une question par contre à poser. Je ne sais pas si du tout si vous le savez, hein, mais au cas où, je pose quand même la question. Ce club-là, finalement, il n'intègre que des femmes lesbiennes ou transgenres, ou finalement, il est ouvert à tout le monde ?
Ah non, c'est ouvert à tous. Il y a même des femmes qui sont en cours de régularisation, des personnes en difficulté. Enfin, ils accueillent vraiment toutes les personnes qui sont susceptibles de jouer au foot, femmes évidemment, mais, parce que ça reste quand même féminin. Et voilà, donc c'est pas, il faut pas être obligatoirement lesbienne, mais en tout cas il faut s'accepter. Sur les différences, ça on apprend beaucoup quand même. C'est aussi là que Rebecca Chaillon se retrouve, et c'est là aussi que dans la suite de cette rencontre avec les Dégommeuses, elle a eu l'idée de ce spectacle. Donc il y a quelques performeuses du spectacle qui ont fait partie des Dégommeuses ou qui font partie des Dégommeuses, elle-même en fait partie. Et puis il y a des vraies performeuses, parce que les Dégommeuses, elles sont pas toutes comédiennes, actrices, performeuses, mais en revanche les performeuses, il y en a qui sont Dégommeuses. Vous voyez, vous me suivez toujours?
Toujours, on a tout compris, c'était très clair.
Est-ce que tout le monde a suivi ce que je viens de dire?
D'ailleurs, Rebecca Chaillon explique aussi que parler féminisme, c'est pas uniquement parler féministe, c'est aussi égalitariste, c'est-à-dire qu'il y a plein de combats à mener sur un stade de foot et sur un terrain de foot.
Oui, et c'est là aussi qu'elle fait le parallèle entre un plateau de spectacle, un plateau où dans le spectacle il va se transformer en terrain de foot, puisque voilà, il va vraiment être créé un lieu de foot entre les vestiaires et le terrain, avec toute une scéno qui relate ces espaces-là. Ces espaces footballistiques. Et donc, c'est au-delà de la transphobie ou des LGBT-phobies, effectivement, là, qui sont des choses sur des thèmes sur lesquels elle milite. Ça va aussi vers une manière universelle dans la société, au-delà du lieu footballistique. Dans la société actuelle, c'est son but, quoi, d'aller de ce lieu particulier à l'universel qui est la société. Voilà.
Cette soirée donc rentre dans le cadre des soirées foot, oui, qui sont organisées, oui, à l'occasion de la Coupe du Monde féminine de football, oui, 2019. Pourquoi une scène nationale s'intéresse-t-elle à un événement sportif?
Pourquoi pas,
tout à fait.
Parce que la scène nationale, c'est un lieu de spectacle vivant. Nos spectacles vivants, les artistes nous livrent leur point de vue sur le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà, il y a des footballeurs et des footballeuses. Donc il y a effectivement des artistes qui s'intéressent au statut de la femme et aujourd'hui ce qui nous préoccupe. occupe et la question que l'on défend et que l'on se pose ici, Place de la République, dans le cadre de la journée des droits de la femme, et donc de la présence de la femme dans le milieu sportif et plus précisément dans le football. Et comme voilà, on a eu ces deux propositions de spectacle de Michael Philippot et de Vreka Chaillon. Voilà, on trouvait ça. Nous, on est en train d'ailleurs de réfléchir. Alors, c'est pas encore complètement arrêté. Vous aurez des infos bientôt, mais sur un événement qui regrouperait aussi des rencontres, pourquoi pas, et un vrai questionnement au-delà de, après les spectacles, en dehors des spectacles, autour de cette question. De la présence de la femme, la question de la femme, comment être une femme dans le milieu sportif et plus précisément dans le football.
En effet, c'est une vaste question. On peut en débattre longtemps à la radio, comme on fait aujourd'hui sur Radio Campus. Mais on peut aller aussi au théâtre pour en débattre dans ces différents lieux de rencontre,
lieu de
débat,
discussion. C'est un lieu de réaction. Et c'est pour ça que, du coup, on peut accueillir aussi des artistes comme Rebecca Chaillon et Michael Philippot qui questionnent l'intime. Et au-delà de l'intime, final, qui parle à tout le monde. C'est des questions universelles et dans lesquelles tout le monde peut se retrouver.
Je vais poser pour conclure cette rencontre autour de donc cette soirée foot avec ce spectacle où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute, de Rebecca Chaillon. Ça sera le 13 juin donc,
oui,
au théâtre.
Oui, ça c'est le premier spectacle.
Voilà.
Le deuxième spectacle, c'est samedi 15 juin, Footballeuse, un autre grand artiste qu'on a plaisir, nous, on a déjà reçu aussi comme Rebecca Chaillon, Michael Philippot, qu'on a déjà reçu à la scène nationale. Et donc là, le footballeuse, c'est un travail qu'il a effectué avec des vraies footballeuses. Là, pour le coup, elles ne sont pas ni performeuses ni comédiennes. C'est des footballeuses qui vont nous parler de leur vie et du football, de leur vie de femme et du football, de leur vie avec le football. Voilà.
Merci beaucoup, Claire. Alors, pour conclure, vous, en tant que jeune joueuse, est-ce que peut-être que vous irez voir ces spectacles, peut-être que ça vous intéresse, mais est-ce que vous verriez monter sur scène pour parler football ?
Parler football, oui. Après, le premier, il est délicat. Je ne me verrais pas monter sur scène pour parler des lesbiennes au sein du foot.
Et oui, toi, tu as déjà l'habitude un petit peu de la scène, j'ai compris, Bonnie, parce que tu expliquais dans l'interview qu'on a eue juste avant que tu as déjà pratiqué le cirque, c'est ça ?
Oui, le théâtre.
Et justement. Le théâtre, d'accord. Peut-être une future recrue pour...
oui, c'est, après, c'est des interrogations qu'on peut avoir. Après, on n'est pas tous, amenés à vouloir forcément en débattre. On n'oblige pas de toute façon. Mais c'est vrai que c'est deux interrogations distinctes, mais qui se rejoignent, effectivement, entre Rebecca Chaillon, qui est une grande militante LGBT, et Michael Philippot, qui interroge plus de manière plus simple, je ne sais pas si c'est le terme approprié, sur la condition féminine au sein du football. Mais c'était aussi, de toute façon, les deux spectacles ont un lien dans le sens où ils combattent des clichés. C'est des phobies, des clichés, c'est des idées communes et trop largement dispensées de manière un peu ou misogyne ou dégradante pour la femme. Et oui, les deux spectacles ont ce même objectif, en fait. Donc c'est vraiment de marquer une opposition à ces clichés-là.
Alors, quels sont ces clichés, selon vous, en fait, qui sont les plus répandus par rapport à...
Eh bien, c'est justement le point de départ du spectacle de Michael Philippot, c'était vraiment sur la femme sexy qui fait du foot. Justement, lui, il a tapé footballeuse sur Google.
Il y avait une campagne.
Et donc, quand on tape footballeuse sur Google, le premier article qui sort, c'est les 20 femmes les plus sexy, les 20 footballeuses les plus sexy.
Il y avait une campagne de la FFF, hein, d'ailleurs, où
ça l'a questionné. Ouais. Il s'est dit, c'est étonnant, c'est-à-dire que les femmes footballeuses sont... on les regarde, pourquoi on regarde du football féminin ? Est-ce qu'on regarde du football féminin juste pour voir des femmes sexy courir après un ballon, ou est-ce qu'on regarde des sportives effectuer une performance sportive, et puis c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Donc ça, c'est un des premiers clichés. Puis effectivement, le cliché pour pour la footballeuse, quoi, d'être à l'opposé de sexiste, c'est-à-dire garçon manqué, forcément lesbienne.
Le football, voilà. Symbole du virilisme. Ouais.
Oui, parce qu'il y a toujours le regard masculin qui va dégrader ce propos féminin et cette performance féminine avec...
Le regard masculin Le regard
Non, c'est vrai, vous avez raison.
Ouais.
Vous avez raison de me reprendre. Le regard extérieur, on va dire. Mais là, pour le coup, qui a été peut-être un petit peu porté par certains hommes, quand même. Bien reconnaître. Parce que les femmes sexy.
Bon. Oui, non, bien sûr.
Mais oui, vous faites bien de me corriger. Vous êtes égalitaire.
Oui, non, parce que oui, voilà, moi je veux juste dire qu'il y a aussi des hommes qui aiment bien aussi regarder tout simplement la performance.
Mais c'est parfait, et heureusement. La performance sportive, mais bien sûr. Peu importe. Comme on est d'accord pour dire qu'il y a des hommes féminins qui défendent le. Qui sont aussi féministes que certaines femmes, qui ne sont, elles, pour le coup, certaines femmes qui ne sont pas féministes. Ouais.
Merci d'être venu sur le plateau,
merci,
Claire.
Merci à vous de m'avoir accordé ce temps de parole.
On va faire une petite pause musicale, histoire de se dégourdir les esgourdes. Et puis on va entendre juste après un extrait qui a été mis en ligne par le média Brut. C'est Anne-Flore Marxer, qui est snowboardeuse, championne du monde en freeride, donc qui est une sportive professionnelle et qui justement parle de ses expériences, elle, où on lui parle de son plus beau le plus beau sourire du snowboard féminin, alors qu'elle veut qu'on la reconnaisse pour ses exploits
bien
sportifs.
Sûr. Alors on va écouter Gör. Gör, c'est un duo d'Allemandes, elles sont de Berlin, elles font un genre de pop un petit peu vitaminé. Voilà, on écoute tout de suite Girl sur Campus et She Says.
Merci Viviane.
nature, qu'on soit une femme ou un homme, on prend les mêmes risques. De manière générale, dans le sport, les hommes sont jugés pour leur performance sportive. Du côté des femmes, on est toujours jugé pour notre physique. Une médaille olympique remportée par une femme, elle n'est pas comptée à 50% de celle qui a été remportée par un homme. Un titre de champion du monde ou un titre de championne du monde sont à égalité. Par exemple, quand je suis invitée sur un plateau télévisé où on va présenter tous les autres sportifs, tous ces hommes, ces héros pour leur performance sportive, leur prouesse, et puis on va me présenter comme le plus joli sourire du snowboard français, je crois pas que ce soit à la hauteur de ce que j'ai pu accomplir dans mon parcours de snowboardeuse. Quand je me suis présentée sur une compétition de Big Air, que le mec a gagné avec un backside rodeo 720, que moi j'ai gagné avec un backside rodeo 540, donc exactement la même figure, une tête en bas, lui avait fait deux tours, moi j'avais fait un tour et demi, donc un demi-tour près. Lui il avait gagné un voyage à Hawaï, et moi j'avais gagné un t-shirt. Si on veut faire des compétitions, on doit voyager. En tant que femme, ça me coûte pas moins cher de me déplacer pour aller sur un événement. Ça me coûte pas moins cher de prendre un billet d'avion, ça me coûte pas moins cher de prendre un hôtel ou un logement. Et puis finalement, si je me consacre à des compétitions, ben c'est pas du temps que je peux passer à aller travailler ailleurs. Alors du côté des hommes, quand ils ont du prize money et qu'ils gagnent de l'argent, ben ça leur permet de financer leur carrière sportive. S'ils ont un sponsor qui va les soutenir financièrement, ça va leur permettre de se concentrer exclusivement sur leur performance sportive. Si on est une femme et qu'on doit travailler à côté et qu'on peut aller s'entraîner que pendant le week-end, ben forcément on part avec un pied d'inégalité pour arriver au même niveau sportif. Dans mon expérience personnelle, en montagne, j'ai jamais vraiment eu le problème parce que finalement mon raid était suffisamment engagé pour gagner le respect de tous les mecs en montagne. Le problème, c'est dans la structure sportive et dans l'industrie des marques qui sont liées à ces sports-là. Pour améliorer les choses, il faudrait qu'il y ait une plus grande diversité dans les personnes qui sont responsables d'investissements financiers, d'organisations sportives, de structures ou d'événements. Comprendre que finalement, la plus grande diversité on aura dans les gens qui vont être décisionnaires du sport sera traduite par une plus grande diversité dans les pratiquants du sport. En parlant de sport, si on ne met en avant que les hommes pour leur prouesse sportive et on ne parle des femmes que lorsqu'elles se dénudent, il y a un vrai souci. Parce que si on s'est battu toute sa vie pour arriver à un niveau sportif au top, au niveau international, c'est pas pour ensuite être réduite à une paire de seins. On peut aussi se poser la question sur quel est l'impact de ça sur les plus jeunes femmes et les jeunes sportives. Est-ce qu'on leur dit, ben, peu importe ce que tu auras accompli dans ta vie, finalement la seule chose qui intéressera le monde, c'est ta plastique.
Voilà, donc vous avez reconnu le son du média en ligne Brut et c'était un témoignage d'Anne-Flore Marcer, snowboardeuse championne du monde en freeride. Ça rejoint tout à fait ce qu'on disait juste avant cette pause musicale, c'est que les femmes sportives, des fois, sont plus considérées pour leur physique que pour leur performance sportive.
Ah bah ça je suis en grande partie d'accord avec toi, hein, là-dessus. Je pense que c'est tout un processus à revoir dans la société, en fait, hein, que ce soit au niveau médiatique, mais pas seulement, c'est même au niveau de nos conceptions à la base, en fait. C'est-à-dire, tu peux élargir, en fait, et sortir du sport, en fait, en disant tout simplement... Enfin, dès l'enfance, par exemple, dès qu'un enfant est tout petit, tu conditionnes les filles avec des poupées Barbie, des jouets pour des filles, et à l'inverse, les garçons avec des Action Man à l'époque ou d'autres choses comme ça. Enfin bref, tu les conditionnes, voilà, à se mettre forcément dans la tête que voilà, certains types de pratiques vont être faites plus pour des filles et certains types de pratiques vont être faits plus pour des hommes. Et en l'occurrence, le sport aussi en est une illustration parfaite, quoi. Mais c'est malheureusement pas la seule, même dans la société. Mmh.
Merci Thomas. Je vais passer le micro à Julie maintenant pour ce format spécial des 5 mains de l'histoire.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Alice Milia. Mais qui était-elle ? C'était une Française. Elle était née en 1884, et passionnée de sport. Elle pratique l'aviron, la nage et le hockey. En 1915, elle devient la présidente de Femina Sport. C'est un club sportif omnisport féminin. La même année, Alice remporte un brevet sportif pour avoir parcouru 80 km en aviron. Deux ans plus tard, en 1917, plusieurs présidents de clubs sportifs se regroupent pour créer la Fédération des sociétés féminines sportives de France. En 1919, Alice demande au Comité international olympique d'inclure des épreuves d'athlétisme aux JO de 1920 en Belgique. Mais Pierre de Coubertin, créateur des JO, pensait que non, 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 les femmes ne sont là que pour remettre des médailles, point barre. Ah bon ? Bah parce que Alice, elle baisse pas les bras et elle va créer en 1921 la Fédération sportive féminine internationale. Et un an plus tard, ont lieu les premiers championnats féminins à Paris. Cette initiative fait l'objet de vives critiques. Des femmes qui font du sport, c'est inintéressant et puis c'est inesthétique. Qu'à cela ne tienne, le premier grand événement sportif féminin a lieu en 1928 sous de nombreuses critiques. Et c'est pour ça aussi qu'on a dû ajouter des épreuves aux Jeux Olympiques. Mais Alice continue d'organiser ses propres Jeux féminins qui pourront accueillir jusqu'à 200 femmes de 17 pays différents, le tout devant 15 000 spectateurs. En tout, en 4 ans, la Fédération sportive féminine aura contribué à affirmer la validité du sport féminin. Ce n'est qu'en 1938 que la fédération sportive fondée par Alice se dissout. Cette dernière décède en 1957 et tombe dans l'oubli. Pourtant, elle est reconnue comme une des plus grandes militantes pour la reconnaissance du sport au niveau international. Un des rares hommages qui lui sont rendus est la création de la fondation Alice Milia en 2016, qui vise à promouvoir et à médiatiser le sport féminin. Voilà.
Merci beaucoup, Julie. Donc, on retrouve ta chronique sur le site et sur Radio Campus Orléans.
C'est le lundi à 16h45 sur Campus.
Merci, Viviane, de me rappeler la grille des programmes que je n'ai pas tout à fait en tête.
Je suis là pour ça.
Eh bien, on arrive à la fin de ce plateau, mais les festivités continuent sur la place de la République avec cet événement « Qu'est-ce qu'elles veulent encore ?». Dans quelques instants, on va avoir le collectif d'artistes Révèle qui vont monter sur scène et nous proposer différentes pratiques artistiques autour de la danse, du chant, de la peinture, de la musique. Je remercie à tous ceux qui sont passés au micro aujourd'hui et tous ceux qui étaient aussi... Viviane, tu es aussi passée au micro, mais je te remercie quand même à la programmation musicale. Et puis aussi Sabrina qui vient de nous rejoindre sur le plateau, qui m'a supporté hier pendant que j'écrivais mon introduction. On va continuer en musique avant de retrouver à l'antenne cet après-midi différents membres du collectif qui vont présenter leurs associations et leurs initiatives.
Alors on écoute Anita Farmin sur Campus, le titre Safar Card. خشم به روی میزنن مشت زان دیر سفر که رفت از من غمز زن و عشوه ساسان